Bien. Je vais vous présenter une intervention sur le thème « Comment connaître le travail quand le travail n'est plus le travail ?» Ce thème comporte deux aspects. Le premier est d'ordre méthodologique, « Comment connaître le travail ?» Le second aspect concerne cet objet hypothétique que serait le travail qui n'est plus le travail. Avant de proposer des pistes de réflexion quant au premier aspect du sujet, je vais vous demander de bien vouloir me suivre dans un effort pour clarifier et remettre à l'endroit ce dont il est question dans cette expression « le travail qui n'est plus le travail ». Cela nous permettra de comprendre en quoi le travail, supposé ne plus être le travail, peut poser un problème d'ordre méthodologique et épistémologique lorsqu'on tente de le connaître. En faisant allusion à un travail qui n'est plus le travail, on pense au travail tel qu'il est en dehors de la norme admise pour considérer qu'une activité humaine est un travail. Cette norme, dans la situation actuelle, est celle du travail marchand ou encore le travail stricto sensu tel que Yves Schwartz l'a défini à l'instant, à savoir un échange de prestations rémunérées dans une société marchande et de droit. Le travail qui n'est plus le travail, ce serait alors le travail non marchand, très courant dans les sociétés africaines, et le travail dit informel, très répandu dans la plupart des pays du tiers-monde. Il est important de préciser que cette expression « le travail qui n'est plus le travail », hélas, n'est pas qu'une formule hypothétique ou fictive. Celle-ci n'est qu'une version parmi tant d'autres versions possibles de l'informalité que l'on attribue à partir d'une posture ethnocentrique, aux activités qui se présentent différemment par rapport à ce que notre expérience nous fait poser comme norme de référence. C'est ainsi qu'au-delà du travail informel, on parle aussi d'apprentissage informel et d'économie informelle. Or, chacune de ces expressions désigne un domaine d'activité important de la vie sociale, le travail, l'éducation, l'économie. Il suffirait de conduire le raisonnement qui conduit à ce genre de formule jusqu'au bout pour en conclure qu'il existe des sociétés humaines informelles, dont les activités ont la particularité d'être informelles. Puisque ce dont il est question ici, c'est de travail, on pourrait s'arrêter sur le vrai et faux concept de travail informel. Mais s'il est vrai que ce qui est qualifié d'informel dans le travail, dans l'apprentissage et dans l'économie, c'est l'activité qui est réalisée, alors la question qu'il importe vraiment de se poser, dans un premier temps, est celle de savoir si une activité socialisée peut être informelle. Que serait une activité informelle? Si la forme dont l'activité informelle est privée, c'est l'essence, alors l'activité informelle est une activité qui est privée de la caractéristique essentielle qui fait qu'une activité est une activité. Auquel cas, c'est un non-sens de parler d'activité informelle. Si la forme désigne la norme, alors l'activité informelle est une activité qui serait réalisée dans un désert de normes. Mais dans ce cas, l'activité informelle visée ne serait pas ce qu'elle est. Souvent, en tout cas, à savoir une activité humaine socialisée. Si la forme, c'est l'organisation ou la structure, alors l'activité informelle est une activité qui est réalisée dans des conditions de désordre, puisque sans organisation ni structure. Mais dans ce cas, l'activité informelle n'aurait pas l'efficacité qui lui permet de durer et de s'inscrire précisément dans un faisceau de relations sociales. Il semble donc qu'il faille en conclure que ce qu'on appelle une activité informelle peut être éventuellement tout sauf informel. Dans une approche plus concrète, en inscrivant ce que seraient les activités informelles dans le contexte réel des collectifs de vie concernés, on peut se rendre compte que l'informalité qu'on leur attribue est en contradiction avec la manifestation concrète de ces activités. En ce qui concerne le travail dit informel, la pêche artisanale aux Comores est une de ces activités considérées comme relevant du travail informel. Pourtant, quand on analyse l'activité de travail des pêcheurs, on se rend très vite compte que leur travail est loin d'être sans normes, sans valeur et sans organisation. Plus précisément, l'introduction d'une nouvelle technique de pêche, ce qu'on appelle les dispositifs de concentration de poissons, n'a pas pu s'effectuer de façon mécanique, car il existe un ensemble de normes constitutifs de ce que les pêcheurs considèrent comme définissant la professionnalité d'un pêcheur. Il suffit un profil de pêcheur pisteur, celui qui cherche le poisson, le piste et le capture, est valorisé au détriment d'un profil de métier de pêcheur-cueilleur, c'est-à-dire celui qui ne fait qu'attraper, cueillir le poisson autour des points DCP. La nouvelle technique DCP est alors prise dans un débat de normes, voire un conflit, qui n'existerait pas si le travail des pêcheurs était effectivement informel. En ce qui concerne l'apprentissage dit informel, la transmission des savoirs dans les situations concrètes de travail est une de ces activités qualifiées d'informelles. Quand on prend le cas de l'agriculture aux Comores, on s'aperçoit que les savoirs utiles pour travailler efficacement dans ce domaine sont transmis dans différents lieux et institutions aux fonctions polyvalentes. La famille, les classes d'âge, les places publiques, les organisations mutualistes de mobilisation de la main-d'œuvre, etc. Mais les agricultures concernées savent parfaitement se situer dans ce réseau institutionnel complexe de transmission de savoir. La variété et la polyvalence des institutions sociales par lesquelles le savoir est transmis rendent difficilement visible la fonction de transmission qu'elles accomplissent, mais elles n'en demeurent pas moins réelles. En ce qui concerne l'économie dite informelle, ce qu'on appelle une économie informelle se distingue d'abord de l'économie marchande. Ce qu'il y a de commun entre les deux, d'abord, c'est l'objectif de profit. Mais elle se distingue en ce que l'économie dite informelle poursuit un autre objectif supplémentaire qui lui est spécifique, la solidarité familiale. Par contre, l'économie dite informelle et l'économie non marchande ont en commun l'objectif de solidarité familiale puisque celle-ci est un aspect particulier de l'objectif de solidarité sociale que vise l'économie non marchande. Cependant, à la différence de l'économie dite informelle, l'économie non marchande ne vise aucunement l'objectif de profit. Si l'économie dite informelle se distingue ou se rapproche de l'économie marchande ou de l'économie non marchande, du point de vue des objectifs visés, cela implique que l'économie dite informelle n'est pas une économie sans finalité structurante. Il ressort de tout le propos qui précède que le travail qui n'est plus le travail est en fait un travail à part entière, mais différent du travail marchand. Le travail dit informel est un travail précisément parce qu'il est, comme tout travail, constitué par des normes, des valeurs et des activités. La norme du travail supposé informel est simplement une norme différente. Mais il est vrai qu'elle est d'accès relativement difficile, car souvent, il faut la chercher dans la parole et non pas dans l'écriture. Et sa fonction organisatrice ne se donne à voir que dans le fil des activités sociales. Cela implique de mettre en œuvre une analyse fine des activités. Mais chaque norme intrinsèque à une activité donnée étant étroitement corrélée aux normes d'autres activités, la cohérence d'une norme particulière ne peut être esquissée que dans le cadre d'une approche synthétique de la réalité sociale. Quand le collectif de vie est organisé de telle sorte que la satisfaction des besoins de ses membres peut mobiliser aussi bien le travail marchand, le travail non marchand que le travail dit informel, et que ces aspects du travail, au lieu de s'opposer systématiquement, se complètent souvent, il apparaît un phénomène de circulation des normes, des valeurs, des activités, des savoirs d'un type de travail à l'autre qui complique l'effort de les comprendre. C'est le sens de l'exemple évoqué tout à l'heure par Yves Schwartz concernant les trois sortes d'usage du poisson capturé par les pêcheurs comoriens, à savoir la part du poisson qui est donnée, celle qui est vendue et enfin celle qui est destinée à la consommation familiale. Alors, comment connaître le travail ainsi présenté ? Pour que la production d'un savoir sur le travail soit possible, il est nécessaire de diriger l'analyse vers ce qui fait sens ou signification dans le travail en question. C'est pour cela qu'il était important de commencer par montrer que le travail dit informel n'est pas réellement informel. Des disciplines telles que l'ergonomie de l'activité et l'ergologie, qui analysent respectivement le travail et l'activité humaine, construisent leur approche méthodologique autour d'hypothèses centrées sur la norme dans le travail et dans les activités. En ergonomie de l'activité, analyser le travail, c'est faire l'étude du travail prescrit, du travail réel, mais surtout de l'écart entre les deux. Comprendre le travail, c'est en quelque sorte rendre compte du sens de l'activité en tant que gestion de l'écart qui existe entre le prescrit et les conditions réelles du travail. Par conséquent, le prescrit en tant que norme est important à considérer, d'une part, dans le processus de gestion de l'écart par les protagonistes du travail, et d'autre part, dans la formulation d'hypothèses de nature à expliquer l'écart entre le prescrit et le réel par l'analyste du travail. Selon l'ergologie, dans toute situation d'activité humaine, il existe nécessairement des normes élaborées en amont des activités. Ce sont des normes antécédentes qui comportent diverses formes d'anticipation auxquelles les protagonistes se réfèrent pour réaliser les activités. Ce concept englobe les savoirs relativement stabilisés qui sont de l'ordre d'un protocole expérimental et les savoirs issus de l'expérience. Mais dans le cours de l'activité et pour tenir compte des paramètres imprévus de la situation de travail, la variabilité, les aléas, les dysfonctionnements, les protagonistes du travail procèdent à des réajustements des normes antécédentes. Le processus de construction dans lequel les normes antécédentes sont mises en corrélation avec la situation de travail pour produire des normes en adéquation avec les conditions réelles de l'activité, c'est cela qui est appelé renormalisation. La norme antécédente et la renormalisation en ergologie sont importantes en tant que référence pour la réalisation des activités et pour l'analyse de l'écart entre les normes et les conditions réelles du travail. En ergonomie de l'activité, le principe épistémologique majeur dans la production du savoir sur le travail est donc la distinction entre le prescrit et le réel. En ergologie, le principe épistémologique central dans la production de savoir sur le travail réside dans la dialectique entre la norme et la renormalisation. La norme antécédente et la renormalisation. Une question majeure est alors de savoir comment accéder aux normes et aux renormalisations lorsqu'il s'agit du travail informel et du travail non marchand. Dans une telle visée, il y a deux difficultés à surmonter. La première difficulté concerne la compréhension de l'écart entre le prescrit et le réel, ou entre la norme antécédente et la renormalisation, sachant que la norme est, dans le travail dit informel et dans le travail non marchand, difficile à repérer et à comprendre à cause du rôle mineur de l'écrit. La parole, comme support des normes, expose plus facilement à l'erreur et à l'approximation dans l'interprétation du processus de renormalisation. La seconde difficulté réside dans la complexité des normes quand les dimensions de la vie sociale, l'économique, le social, le religieux, s'entremêlent. Ici aussi, les risques d'erreur et d'approximation sont importants lorsqu'on essaie de repérer et de comprendre les normes pertinentes en ce qui concerne une activité isolée pour les commodités de l'analyse, mais reliée étroitement à d'autres activités dans la réalité sociale. Il semble qu'ici, plus qu'ailleurs, il soit difficile d'envisager de connaître le travail sans intégrer deux aspects importants qui le constituent, la multidimensionnalité et les singularités. Pour intégrer la multidimensionnalité du travail, il est nécessaire d'adopter une approche pluridisciplinaire. Celle-ci a pour fonction de permettre de tenter de mieux comprendre les normes et les processus de renormalisation qui sont réalisés dans le maillage des dimensions économiques, juridiques, etc., de la vie sociale. L'élaboration d'un projet de collaboration pluridisciplinaire serait de nature à permettre d'échapper aux effets de compilation artificielle des disciplines. Pour intégrer les singularités du travail, il est nécessaire d'associer les protagonistes du travail à la production du savoir sur les activités qui les concernent. Si la question des normes doit être considérée dans la complexité, alors trois aspects différents des normes doivent retenir l'attention. Les normes sur le travail, les normes dans le travail et le travail des normes. Accéder à ces différentes normes paraît difficile, voire impossible, sans la collaboration active des protagonistes du travail au processus de production de savoir sur les activités dont ils sont les sujets. Mais ce n'est pas par un effet mécanique que la collaboration entre les disciplines, d'une part, et la collaboration avec les protagonistes du travail, d'autre part, pourra fonctionner. Pour que ces collaborations à géométrie variable puissent se mettre en place dans le cadre d'un dispositif dynamique à trois pôles, une double exigence éthique et épistémologique doit être vérifiée. L'exigence épistémologique postule que toute production de savoir sur les activités humaines requiert la collaboration de leurs auteurs. L'exigence éthique véhicule une conception du sujet humain où celui-ci aspire à être producteur de ses propres normes de vie. Dans le cadre d'un projet de connaissance du travail dans ses différentes manifestations historiques et sociales, ce dispositif dynamique à trois pôles présente au moins deux vertus importantes. En premier lieu, il permet de neutraliser les manifestations ethnocentriques qui portent à qualifier d'emblée tout travail autre que marchand d'informel. En second lieu, il est de nature à favoriser une production de savoir sur les activités humaines qui peuvent être investies dans la conception de projets de développement adaptés aux réalités locales des collectifs de vie concernés. Cette question du développement me tient beaucoup à cœur, comme le vient de l'indiquer Yves Schwartz. Je ne vais pas le développer ici, ce n'est pas le sujet et je n'ai pas le temps.